Kiosque Magazine.
Jeudi 18 juin, une belle journée d'été. Bonjour à tous. Éric de Belval avec vous jusqu'à 10h. Je devrais être avec François Brodeur. Peut-être nous rejoindra-t-il un peu plus tard. Nous l'espérons. En attendant, bah écoutez, c'était un grand jour parce que c'est deux anniversaires historiques. Waterloo et puis l'appel du 18 juin. Décidément, les Anglais ne nous quittent jamais. Bien, nous allons parler d'économie et non pas d'histoire. Et nous allons aborder un certain nombre de sujets financiers. Notamment, on va démarrer avec l'effet levier. Alors, est-ce que vous êtes un investisseur avisé, capable d'utiliser au mieux ce qu'on appelle l'effet levier? Si vous ne savez pas ce que c'est, il est possible que vous l'utilisiez sans le savoir. Mais pour vous aider à lever le doute, en voici la définition. C'est l'utilisation de l'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement. C'est plus clair? Sans doute. Mais c'est aussi risqué, particulièrement parce que c'est tentant. Et pour rester dans la finance, on va parler aussi de la crise de liquidité. La crise de liquidité, c'est une bombe à retardement. Alors, époque oblige, notre frénésie pour le court terme et le sensationnel, même en économie, nous rend moins attentifs à certains événements. Par exemple, le gonflement des liquidités dans les réserves des banques, un peu partout sur la planète, les effets de leur dispersion et de leur emploi, la conséquence sur les taux d'intérêt sont des données, certes commentées, mais peut-être pas évaluées à leur juste mesure quant aux conséquences qui s'annoncent. Et puis, on parlera aussi de pétrole, parce que c'est pas possible de parler d'économie sans parler de pétrole. Et évidemment, ça nous amène aux États-Unis. Non seulement nos grands voisins sont devenus les premiers producteurs de la planète de pétrole devant l'Arabie Saoudite, mais cette situation devrait perdurer. Cela dit, malgré cette position dominante, les États-Unis continuent à importer du pétrole. Alors, quelles sont les conséquences géopolitiques d'une telle situation? Il y aura d'autres sujets et tout ça dans quelques instants. Alors, je vous parlais à l'instant de l'effet de levier. C'est un nouveau mode d'emploi de l'usage de la finance pour les particuliers, parce que ça permet finalement à chaque particulier de se transformer en une petite entreprise sur le plan financier. Mais attention, il y a des précautions à prendre. Par exemple, éviter la faillite ou ne pas confondre financement et loterie. Alors, c'est un sujet qui a intéressé Patrick Ténière et Rémi Morel dans les affaires. Et je vous lis leur article. C'est connu. Emprunter pour investir comporte des risques, car il magnifie les pertes en cas de rendement négatif. Pour éviter de subir ce malheureux résultat, quoi de plus naturel que d'éviter toute dette de cette nature? Pour les intéressés, un article a été publié sur ce sujet. Voici un cas typique. Un couple A, détenant une hypothèque de 150 000 $ sur une maison affichant une valeur de 200 000 $, désire éviter de recourir à un emprunt supplémentaire de 50 000 $ que leur offre leur banque afin d'ajouter ce montant aux investissements de 80 000 $ qu'ils possèdent déjà. Vous avez bien suivi, c'est pas compliqué, il y a trois chiffres à retenir. Certes, si les marchés rapportent gros, ils manqueront cette opportunité. Ils pourront cependant dormir en paix, sachant que quoi qu'il advienne, ils ne subiront pas les désagréments de l'effet levier. Alors, vrai ? Eh ben non, c'est faux. Établissons une comparaison avec un couple B similaire, dont la situation financière ressemble drôlement à celle-ci. Ce couple détient le même montant total de dette, mais elle est répertoriée de façon différente. Leur hypothèque initiale sur leur maison de 200 000 $ atteint seulement 100 000 $. Toutefois, ils ont emprunté par la suite 50 000 $ afin d'augmenter leur investissement de 30 000 à 80 000 $. Ils se retrouvent alors avec un prêt investissement. Certes, ils ont eu recours à une hypothèque supplémentaire sur la maison, car le coût des intérêts y est moindre. Ils auraient pu emprunter en utilisant une source de financement différente, mais cela n'aurait pas été dans leur, entre guillemets, intérêt. Au final, le couple B affiche une dette totale de 150 000 $ avec des investissements de 80 000 $. La seule différence provient du fait que le couple A ne peut pas déduire les intérêts sur une tranche de leur prêt. En effet, le couple B jouit d'un avantage fiscal sur le tiers de leur hypothèque, étant donné qu'il a servi à procurer du revenu de placement. Nous nous retrouvons donc avec deux situations financières très similaires, mais celle du couple B s'avère supérieure. Dans les deux cas, les risques s'équivalent. Vu de cet angle, comment peut-on affirmer que le couple A agit avec prudence vis-à-vis du couple B qui décide de recourir à l'effet levier? La raison est bien simple. Afin d'obtenir le juste portrait de toute situation financière, on doit considérer l'ensemble des actifs et des dettes plutôt que de les considérer séparément. Votre valeur nette totale variera en fonction de l'utilisation des emprunts, peu importe les actifs qu'ils financent. Par exemple, admettons que vous possédiez un immeuble à revenus. Comme il s'est apprécié ces dernières années, vous songez à augmenter l'emprunt sur celui-ci de 25 000 $ afin de vous payer des vacances de rêve. Vous dépensez donc ces 25 000 $, vous êtes donc certain de les perdre. À l'opposé, si vous prenez ces 25 000 $ et que vous investissez à la bourse, vous pourrez déduire les intérêts, mais vous serez réputé avoir eu recours à l'effet levier. Quelle stratégie s'avère la plus risquée? Investir en bourse avec l'emprunt ou perdre l'argent de façon sûre en la dépensant? Comme on le constate, il s'agit ici d'une façon de voir les choses. Pourtant, sur le plan mathématique, c'est rationnel. Un couple C, possédant 50 000 $ en argent comptant, pourrait décider de ne jamais emprunter pour investir. Ainsi, il décide d'investir ses 50 000 $ à la bourse et de faire des courbettes pour réussir à acheter une maison sans y mettre un sou, empruntant 100% de la valeur. L'effet levier est bien réel, mais il passe inaperçu du côté des investissements. Les emprunts sont comparés uniquement avec la valeur de la maison, alors qu'ils affectent pourtant l'ensemble de la valeur nette du couple. En réalité, s'ils avaient voulu minimiser l'effet levier, le couple C aurait appliqué les 50 000 $ comme mise de fonds sur la maison. Ils auraient alors accepté de ne pas détenir d'investissement. Par conséquent, du moment que vous êtes le débiteur d'un prêt pour lequel la banque peut avoir recours contre l'ensemble de vos actifs, vous utilisez l'effet levier si vous investissez. Il peut s'agir d'un prêt auto, de solde sur la carte de crédit ou de l'achat de meubles sur 36 mois. Si vous avez en même temps un REER, un CELI ou tout autre investissement, on aboutit au même résultat. Vous bénéficiez, ou vous souffrez, de l'effet levier. Pour conclure, précisons que nous n'avons rien contre le recours à cette stratégie. Il faut simplement demeurer conscient de toutes les situations où il s'avère déjà utilisé. Bon, alors, vous avez bien noté, c'est quand même pas si simple. En tout cas, c'est un peu risqué. Personnellement, je ne suis pas certain que ça soit une chose à vraiment recommander.
Hey.
Nora Jones qui ne chantait Say Goodbye. Alors, Say Goodbye, c'est une phrase qui s'applique pas vraiment à l'immigration. Il faudrait plutôt dire Say Hello. Et vous avez peut-être entendu M. Couillard qui a pris des positions dimanche sur les seuils d'immigration. Tout à fait intéressante. Intéressante à commenter en tout cas. Ça a été le cas d'Antoine Robillard dans le Devoir d'avant-hier, je crois. Et ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'immigration. Je crois qu'il faut qu'on s'y arrête parce que Dieu sait que c'est un sujet d'actualité, un sujet qui est en permanence d'actualité et sur lequel il faut avoir une stratégie aussi bien claire en termes politiques que rationnelle en termes économiques. Alors, essayons de voir si c'est le cas. La sortie de Philippe Couillard de dimanche sur la nécessité de hausser tout de suite les seuils d'immigration était prématurée et dogmatique. Il devrait la corriger. Nous n'avons pas à faire le choix de l'immigration, c'est une évidence, une obligation, a martelé Philippe Couillard devant ses militants réunis en congrès en fin de semaine. La formule a quelque chose de dogmatique, voire d'antidémocratique. Espérons que les mots ont dépassé la pensée du Premier ministre en ce début d'été favorable à son gouvernement. Car une démocratie, selon la belle formule du philosophe français Cornelius Castoriadis, est une société qui préserve et accueille l'indétermination. Point d'évidence dans celle-ci. Tous les choix doivent pouvoir être mis et remis en question. Du reste, la formule du Premier ministre n'est sans doute pas innocente. Un dialogue avec la société m'apparaît requis avant de prendre des décisions qui pourraient fragiliser encore davantage le français au Québec, écrivait légitimement Pierre-Carl Péladeau sur sa page Facebook lundi. Or, sur la question de l'immigration, M. Couillard nous fait comprendre qu'il n'y a pas de dialogue possible. Toutes les personnes qui oseront poser des questions, formuler des objections, proposer des choix autres que ces prétendues évidences seront dépeintes comme des êtres étroits d'esprit, voire tentés par le racisme. Ruse théorique perverse doublée d'un sentiment de supériorité. « Je connais le monde, moi, monsieur, j'ai travaillé à l'étranger. » Il y a pourtant mille et une manières de faire le choix de l'immigration au Québec. Elles ont pour nom Jacques Couture, Gérald Godin, Monique Gagnon-Tremblay, etc. Or, M. Couillard a voulu nous faire comprendre dimanche qu'il n'y en a qu'une et une seule. Hausser les seuils, accueillir toujours plus de nouveaux arrivants tout de suite. Avant même la publication d'une nouvelle politique d'immigration, avant même le plan d'action promis par sa ministre, avant même la nouvelle loi sur l'immigration, avant même la consultation annuelle sur les seuils d'immigration. Or déjà, le Québec, proportionnellement, accueille plus d'immigrants que des pays comme les États-Unis et la France. Et dans cette situation ultra exigeante et pour les immigrants et pour la société d'accueil, quelle fut la manière du gouvernement Couillard dans les faits, non pas dans les discours? Des compressions, beaucoup de compressions, dans les ressources pour l'accueil aux immigrants, dans les classes de francisation. Le budget du ministère a été réduit. Québec a reçu 340 568 000 $ du fédéral pour l'intégration des nouveaux arrivants. Où sont-ils? Disparus dans le fonds consolidé, selon ce que déplore depuis des années Stephen Rachel de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Dans ce contexte-là, c'est effectivement un peu risqué d'augmenter de beaucoup les niveaux d'intégration, a-t-il confié en entrevue au Devoir lundi. C'est sans compter, comme le notait la collaboration Avenir Québec lundi, que le taux de chômage des nouveaux arrivants s'établit à 17% chez les immigrants arrivés dans les 5 dernières années. La conclusion de M. Couillard semble aussi découler d'un simple préjugé économico-démographique. Des chercheurs, Benoît Dubreuil et Guillaume Marois, ont dans un livre étoffé, Le remède imaginaire, critiqué la thèse selon laquelle le Québec, aux prises avec un vieillissement et une pénurie de main-d'œuvre, n'aurait pas le choix d'augmenter les seuils d'immigration. N'y a-t-il pas là une raison de douter ou au moins de dialoguer? Alors voilà un article qui me laisse un peu perplexe parce qu'on ne résout pas les problèmes. J'ai même l'impression qu'on ne les pose pas vraiment. Il faudrait quand même être un petit peu sûr des choses et savoir si les besoins, d'abord, sont correctement quantifiés, correctement évalués, et si la politique qui est mise derrière pour que l'accueil qui est nécessaire suive et permette un enracinement de l'immigration dans l'économie québécoise est vraiment respecté. Alors, je vous disais en introduction qu'il fallait quand même qu'on parle un petit peu de pétrole, comme on le fait quasiment à chaque fois. Et ça nous oblige à revenir un petit peu visiter nos grands voisins et essayer de comprendre quelles sont les conséquences économiques, éventuellement géopolitiques, de la position dominante des États-Unis. Car, bah oui, depuis 2012, les États-Unis sont le premier producteur de pétrole devant l'Arabie Saoudite qui, traditionnellement, occupait cette place. Alors, c'est une situation qui a intéressé Jean-Michel Bezin, un journaliste du Monde, et dont l'article a été repris par Le Devoir. L'article s'appelle « Le règne des cowboys après celui des princes ». Bob Dudley, le patron de BP, British Petroleum, a bien résumé la situation dans la présentation de l'édition 2015 de la BP Statistical Review of World Energy, son document de référence publié mercredi. En 2014, l'évolution la plus significative dans l'offre d'énergie a sans conteste été la poursuite de la révolution des huiles de schiste aux États-Unis. Ils ont enregistré la plus forte augmentation de la production pétrolière au niveau mondial, devenant le premier pays dont la croissance de la production annuelle moyenne a été d'au moins 1 million de barils par jour durant 3 années consécutives. C'est ainsi que les Américains ont remplacé les Saoudiens comme premier producteur mondial d'or noir. Une perspective impensable il y a 10 ans, selon M. Dudley, illustrant l'incroyable boom du pétrole de schiste dans des États comme le Dakota du Nord et le Texas depuis le début de la décennie. Si l'on y ajoute le gaz, ils produisent plus d'hydrocarbures que les Russes qui ont longtemps fait la course en tête. Ils retrouvent ainsi la place qu'ils avaient en 1975, avant que les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la fameuse OPEP, ne les supplantent. La production moyenne a atteint 11,64 millions de barils par jour, si l'on ajoute les condensats au gaz naturel liquide, un peu au-dessus de celle de l'Arabie Saoudite, 11,5 millions. Les conséquences de la révolution du schiste américain sont profondes, a souligné le patron de BP. Elle a contribué pour une très large part à l'augmentation de 2,1 millions de barils de l'offre mondiale, à la surabondance du marché et à l'effondrement des prix depuis le pic de juin 2014, où le baril avait atteint 115 $ américains. Le baril de WTI pour la livraison, c'est une des qualités de pétrole, pour la livraison en juillet, s'échangeait mercredi à 61,43 $ américains sur le marché de New York et le Brent à 65,70 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres. Cette place de numéro 1 du pétrole n'est pas une surprise. En 2012, l'Agence internationale de l'énergie l'avait annoncé pour avant la fin de la décennie. Ce qui l'est plus, c'est la rapidité avec laquelle le pays y est parvenu grâce à l'usage de la technique très controversée de la fracturation hydraulique et des puits horizontaux, ainsi qu'à l'industrialisation des processus de production. Les pétroliers peuvent l'arrêter et la relancer dans des laps de temps assez courts, ce qu'il n'est pas possible de faire dans les gisements des grandes profondeurs marines. Les États-Unis devraient conserver cette place plusieurs années. Dans l'immédiat, le département américain de l'énergie prévoit bien une légère baisse de la production de pétrole de schiste au second semestre, mais la reprise est attendue début 2016. Il y a aujourd'hui 2,5 fois moins de plateformes de forage en activité qu'il y a un an, mais de nombreux puits forés peuvent être mis en production très rapidement. Et l'administration américaine d'information sur l'énergie rappelle qu'il faut remonter à 1972, à la veille du premier choc pétrolier de la fin 73, pour retrouver un niveau de production équivalent à ce qu'il sera sur l'année 2015. Hors gaz liquide, elle atteindra 9,43 millions de barils par jour et 9,3 millions en 2016, indique-t-elle dans son dernier rapport. Déjà indépendant pour le gaz, les États-Unis s'en rapprochent donc pour le pétrole, même s'ils importent encore de pays parfois hostiles, comme le Venezuela, quelques 6 millions de barils par jour, le tiers de leur consommation. Ces importations ont néanmoins été divisées par 2 par rapport à 2005, l'année où les Américains ont été le plus dépendants des ressources extérieures. La moindre dépendance des États-Unis au pétrole des monarchies du Golfe arabo-persique n'a pas encore eu de conséquences géopolitiques majeures. Mais le sentiment de vulnérabilité ressenti naguère par Washington, qui a toujours fait de l'énergie un sujet stratégique, est désormais vécu par Pékin, toujours plus dépendant du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Afrique. En 2010, la Chine est en effet devenue le premier consommateur mondial d'énergie et depuis la fin de 2013, le premier importateur d'or noir. Ces énormes besoins en hydrocarbures et en minerais la poussent à multiplier ses investissements dans de nombreux ports étrangers et à renforcer sa flotte et sa capacité de projection militaire pour assurer la sécurité de ses routes maritimes. Dans un livre blanc consacré à la stratégie militaire, publié le 26 mai, le gouvernement souligne que la sécurité des intérêts outre-mer dans l'énergie et les ressources, les voies maritimes stratégiques ainsi que les institutions, du personnel et des actifs présents à l'étranger est devenue une préoccupation majeure. Ce document développe une vision stratégique conférant un rôle global à ses forces armées et entérinant la transformation de la Chine en puissance commerciale aux intérêts planétaires. Alors, quelques brèves, non pas pour nous changer les idées, elles sont toujours un petit peu noires quand on parle d'économie, mais enfin, ça nous apportera un peu de diversité. Eh bien, le gouvernement Couillard songe à repousser l'âge de la retraite. Il prépare le terrain pour repousser cet âge et retarder le plus possible le versement des prestations de la régie des rentes. Ce scénario est inévitable, a dit d'entrée de jeu le ministre des Finances, Carlos Leitao, samedi matin, alors que débutait le congrès des membres du Parti libéral du Québec, qui se tient tout le week-end au Palais des congrès de Montréal. Les militants devront se prononcer sur une résolution proclamant la nécessité d'augmenter graduellement l'âge à partir duquel il sera permis de recevoir les prestations de la régie des rentes actuellement fixée à 60 ans. Le parti voudrait que Québec ajuste désormais l'âge choisi, et ça me paraît normal, en fonction de l'espérance de vie. Quelques nouvelles de l'immobilier, ça fait aussi longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors ça me fascine toujours parce que et on peut vraiment, mais continuellement, vous ouvrez la presse économique, vous allez à la rubrique immobilier, et bien d'un article à l'autre, d'une semaine sur l'autre, enfin quel que soit le mode que vous choisissez pour vérifier et pour comparer, et bien vous pouvez avoir des positions contraires. C'est à se demander ce que la statistique économique signifie dans ce domaine. Autrement dit, on dit autant que ça monte que ça baisse. Donc, dernière nouvelle, eh bien, les prix des maisons ont grimpé dans toutes les grandes villes canadiennes au mois de mai, sauf à Calgary où ils ont connu leur plus importante chute en au moins 15 ans, selon une nouvelle étude. Alors, moi je ne sais pas, je n'y comprends rien, ça monte partout, ça baisse à Calgary. Écoutez, le mieux c'est encore de prendre les vraies petites annonces avec les vrais prix des maisons pour se faire une vraie idée à soi quand on en achète une ou quand on en vend une. Alors, une nouvelle absolument dramatique, enfin moi j'étais effondré en l'apprenant, il paraît que le régime méditerranéen risque de disparaître. Vous savez, le fameux régime crétois dont on dit qu'il est excellent pour la santé parce qu'il y a l'effet de viande maigre, de fruits, de légumes et de différentes graines. Et il paraît que ça ralentit le vieillissement cérébral et que ça lutte contre la graisse abdominale. Voilà, vraiment deux objectifs majeurs. Eh ben, figurez-vous que selon un rapport réalisé par la FAO, hein, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, eh bien, le bassin méditerranéen, qui est le berceau de ce régime, serait touché par ce qu'on appelle une transition nutritionnelle qui est responsable de décès prématurés. Et donc, ce régime qui disparaît dans cette zone du monde voit en parallèle exploser le surpoids et l'obésité sur le pourtour méditerranéen. Et donc, cette région qui a produit ce régime est en train de l'abandonner et de mourir aussi vite que les autres. Ah, Je ne peux pas m'empêcher de vous donner des nouvelles de la loi 101, cette loi qu'on adore et qu'on défend, bien entendu. Eh bien, l'organisme impératif français trouve insultant pour tous les francophones, et il a bien raison, que le gouvernement du Québec doive resserrer la loi 101 pour contraindre certaines grandes chaînes de magasins à ajouter un descriptif en français à leur marque de commerce. En anglais, le président de l'organisme, Monsieur Perrault, se dit éberlué que des détaillants préfèrent dépenser des millions de dollars en procédures judiciaires plutôt que de respecter l'environnement linguistique et naturel des Québécois. Il a bien raison, on le soutient et on lui dit de continuer. Ah, Google, notre grand ami Google, qui est partout, qui fait tout, qui sera bientôt le gouvernement du monde à lui tout seul. Eh bien, je ne dis pas ça au hasard, parce que Google crée une nouvelle société pour s'attaquer aux problèmes des grandes villes. Il a annoncé mercredi dernier la création d'une nouvelle société pour, alors tenez-vous bien, s'attaquer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, aux problèmes spécifiques de la vie dans les grandes villes. Alors, il y a une tonne de façons de penser comment améliorer la ville. Hein. Les logements, les transports, moins de pollution, des espaces verts, des pistes cyclables, ce que vous voulez. Eh bien oui, bah, c'est exactement ça. Et c'est à ça que Google veut s'attaquer. Ça a été dit par son directeur général, Larry Page, et dans un message qui a été publié sur le réseau social du groupe. Vous pouvez le trouver, là, Google, le fameux Google+. Et cette société a un nom. Sidewalk Labs, et elle va donc se consacrer sur l'amélioration de notre vie. Est-ce qu'il faut en déduire que si on n'est pas complètement dépendant de Google pour tout un tas de choses, à commencer par la communication, eh bien on ne pourra plus vivre dans une ville? Est-ce qu'il faudra bientôt le feu vert, je dis vert entre guillemets, de Google pour acheter une maison, pour circuler, pour parler à ses voisins? J'en ai peur. Voilà, bah écoutez, c'est déjà la moitié de l'émission, donc on va faire une petite pause et on se retrouve dans très peu de temps.
D'écouter Kiosque Magazine.
On a souvent commenté à ce micro le fait que la lutte contre la pauvreté, qui est évidemment une cause tout à fait majeure et à laquelle il faut s'attabler sans relâche, doit également s'accompagner d'une lutte contre l'accroissement des inégalités. Parce que ça, c'est une préoccupation qui est de plus en plus vive et qui, me semble-t-il, est un des freins les plus puissants à la lutte contre les inégalités. À la lutte contre l'appauvrissement. Alors, il y a un article qui a été publié par Éric Desrosiers dans Le Devoir du 16 juin et qui me paraît traiter, même si c'est un petit peu en parallèle de cette question, de façon fort intéressante et dont le titre peut sembler paradoxal, « La fortune sourit aux pays dont les moins bien nantis s'enrichissent ». Contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu dire, la richesse ne ruisselle pas des plus nantis jusqu'aux plus humbles de la société, mais elle part de la base pour remonter dans toute l'économie. C'est ce qu'a conclu, il n'y a pas longtemps, une étude du FMI, et je crois que ça a été la base de la réflexion d'Éric Desrosiers. Je vous lis son article. Chaque fois que le cinquième de la population le plus riche augmente de 1 point de pourcentage, sa part des revenus totaux, l'ensemble de l'économie recule de 0,08 point de pourcentage au cours des 5 années suivantes, estime une étude d'une trentaine de pages dévoilée lundi par le FMI. A l'inverse, chaque fois que le cinquième de la population le plus pauvre augmente sa part de revenus de 1 point de pourcentage, le produit intérieur brut augmente aussi de 0,38 point. Autrement dit, l'enrichissement des mieux nantis ne ruisselle pas automatiquement sur l'ensemble de l'économie. C'est même plutôt l'opposé qui se produit, souligne deux fois plus qu'une les auteurs de l'étude, qui contredisent ainsi une théorie dite du ruissellement, très en vogue chez une certaine droite. En fait, ce sont les pauvres et la classe moyenne qui comptent le plus pour la croissance par l'entremise d'un ensemble de canaux économiques, sociaux et politiques. Ces derniers perdent malheureusement de plus en plus de terrain par rapport aux plus riches. L'accroissement des inégalités de revenus est le plus grand défi de notre époque, annonce l'étude d'entrée de jeu, reprenant à son compte une déclaration du président américain Barack Obama. Le problème n'est pas aussi marqué dans tous les pays et il a plusieurs causes qui ne sont pas nécessairement toutes les mêmes. Les innovations technologiques et l'avantage qu'elles ont conféré à la main-d'œuvre la mieux formée ont été l'un des facteurs importants dans les pays développés ces 25 dernières années. L'accroissement du secteur financier a sensiblement eu le même effet. Souvent citée comme une cause importante, l'augmentation du commerce n'a peut-être pas été aussi dommageable qu'on le dit. L'augmentation du pouvoir d'achat découlant de l'accès à des produits moins chers ayant compensé au moins en partie la délocalisation d'emplois de classe moyenne vers les pays émergents. Les changements apportés aux règles du marché du travail ont eu un impact plus négatif. L'assouplissement des règles de mise à pied, le recul constant du salaire minimum par rapport au salaire médian et l'affaiblissement des syndicats, et par conséquent du rapport de force des travailleurs, sont autant de facteurs ayant desservi la classe moyenne et les plus pauvres. L'affaiblissement des politiques de redistribution de la richesse des gouvernements est aussi en cause. On constate ainsi que le 1% des plus riches a été rapide à saisir l'occasion qui lui a été offerte, la réduction du taux marginal d'impôt sur le revenu ayant mené à une augmentation de ses revenus. Dans les pays pauvres et émergents, les inégalités de revenus et de richesses d'accompagnement d'inégalités d'accès à des services essentiels comme la santé et l'éducation. Les écarts et le retard sur les pays riches qu'on retrouve dans ces contrées sont en voie de se réduire, dans plusieurs cas, mais restent souvent très importants. Le Canada n'est que très rarement cité dans l'étude du FMI, mais il y fait généralement meilleure figure que la plupart des autres pays développés. Les canaux par lesquels la montée des inégalités plombe la croissance économique sont multiples. Les chercheurs du FMI expliquent par exemple que les familles les moins fortunées ont moins de ressources à consacrer à l'éducation, ce qui se traduit par un gaspillage de capital humain. Plusieurs experts ont aussi attribué la dernière crise financière à la stagnation, voire au recul des revenus d'une grande partie de la population qui s'est traduit par un endettement impossible à maîtriser. Le creusement des écarts de richesse tend aussi à miner la confiance de la population et la cohésion sociale nécessaire au moment de prendre les importantes décisions collectives. Il n'existe pas de solution universelle à la pauvreté et à l'effritement de la classe moyenne, préviennent les auteurs de l'étude du FMI. Il faut commencer par faire de ces enjeux une priorité. Dans la mesure où on ne bascule pas dans l'excès, il faut cesser d'avoir peur que les impôts et les transferts sociaux nuisent à la croissance économique. On propose, entre autres choses, de taxer plus non pas seulement le revenu, mais aussi le patrimoine, d'abolir les avantages fiscaux qui profitent surtout aux riches et de mettre l'accent sur les dépenses en éducation. On recommande aussi de prêter un peu plus attention non seulement à l'efficacité, mais aussi à l'équité des règles du jeu dans le marché du travail. Cette étude du FMI s'inscrit dans une liste de plus en plus longue de rapports et autres prises de position consacrées au problème des inégalités depuis quelques années. Pas plus tard que le mois dernier, les experts de l'OCDE dévoilaient une importante étude sur le même sujet, dont les conclusions étaient similaires à celles du FMI. Tout ça me fait vraiment penser à toutes les fois où on parle de l'environnement et on ne cesse de répéter que les mêmes études aboutissent aux mêmes conclusions, qu'on sait parfaitement ce qu'il faudrait faire. Ça ne concerne pas que l'environnement. Je crois qu'on pourrait largement appliquer ce genre de réflexion au problème de l'emploi ou à d'autres problèmes économiques. Mais en l'occurrence, sur cette question de la diminution de la pauvreté et de la diminution des écarts entre pauvres et riches, je crois que les solutions sont encore plus évidentes. Elles relèvent du simple bon sens. C'est l'application, évidemment, qui est compliquée et ce sont les esprits qui doivent changer.
L'argent fait le bonheur. L'argent, l'argent fait le bonheur. L'argent, on peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut sans l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur. Je vais chez mon garagiste pour changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Je vais chez mon barbier pour faire teindre mes cheveux, ça coûte de l'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent. Vraiment. Je vais au magasin pour m'acheter des cossins. Encore l'argent.
manger des bananes, manger des dîners en plein, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le malheur.
Sans l'argent.
L'argent fait le bonheur, nous chantaient les respectables, un excellent choix musical de notre réalisateur Rémi Hermoso. Eh bien, puisqu'on parle d'argent, ça n'arrive pas souvent, si, oh, si, ça arrive très souvent, eh bien, on va parler de la forme la plus exacerbée de l'argent, peut-être, aujourd'hui, qui est la liquidité et la crise de la liquidité. Alors, on pourrait, en tant qu'individu, on pourrait penser que trop de monnaie dans sa poche, c'est pas un problème, au contraire. Bah oui, c'est peut-être vrai, d'ailleurs. C'est vrai pour un individu, mais il en va tout autrement pour une institution financière. Que se passe-t-il quand il y a trop d'argent en circulation ? Et j'ai trouvé dans Les Échos un article qui n'est pas d'un journaliste, mais qui est de Nouriel Roubini. Et Nouriel Roubini, c'est le président d'une société financière qui devrait être bien placée pour produire une réflexion intéressante sur cette question. Je vous lis sa chronique, parue donc dans Les Échos. Depuis la crise financière mondiale de 2008, un paradoxe se dessine sur les marchés financiers des économies développées. En effet, la mise en œuvre de politiques monétaires non conventionnelles a généré un important excédent de liquidités. D'un autre côté, une série de chocs récents semble indiquer que ce phénomène serait devenu associé à une grave illiquidité du marché. Je ne suis pas très sûr du caractère français du mot illiquidité, mais enfin, on va l'accepter comme étant le contraire de liquidité, peut-être, ou absence de liquidité par rapport à excès. Bon, admettons. Les taux d'intérêt directeurs qui se situent aux alentours de zéro et parfois en dessous dans la plupart des économies développées, tandis que la base monétaire, c'est l'argent qui est émis par les banques centrales sous forme d'espèces et de réserves liquides des banques commerciales. Donc cette base monétaire a littéralement explosé, doublant, triplant, voire quadruplant aux États-Unis par rapport à la période d'avant-crise. Ceci a permis de maintenir les taux d'intérêt de court et long terme à un faible niveau, voire à un niveau négatif dans certains cas, comme en Europe et au Japon, de réduire la volatilité des marchés obligataires ainsi que d'élever le prix de nombreux actifs, parmi lesquels les actions, l'immobilier, ainsi que les obligations à revenus fixes des secteurs privés et publics. Et pourtant, les investisseurs ont des raisons d'être inquiets. Leurs craintes ont débuté au moment du flash crash de mai 2010, qui a vu en seulement une demi-heure les principaux indices boursiers américains chuter de presque 10% avant de se rétablir rapidement. est ensuite intervenue la politique du tapering au printemps 2013, qui a vu les taux d'intérêt américains à long terme grimper de 100 points de base après que le président de la Fed, à l'époque Ben Bernanke, ait laissé entendre que la Fed allait cesser ses achats mensuels de titres à long terme. De même, en octobre 2014, les rendements du Trésor américain ont chuté d'environ 40 points de base en seulement quelques minutes, dans le cadre de ce que les statisticiens considèrent comme ne pouvant se produire qu'une fois tous les 3 milliards d'années. Bravo les statisticiens. Le dernier épisode a eu lieu tout juste le mois dernier, lorsqu'en l'espace de quelques jours, les rendements des obligations allemandes à 10 ans sont passés de 5 points de base à presque 80. Ces différents événements ont fait naître la crainte selon laquelle même les marchés les plus ancrés et les plus liquides, de type actions américaines ou encore obligations gouvernementales aux États-Unis et en Allemagne, pourrait en fin de compte ne pas l'être suffisamment. Comment l'expliquer? Sur les marchés des actions, les traders haute fréquence, qui utilisent des programmes informatiques algorithmiques afin de suivre les tendances du marché, représentent une part majeure des transactions. Ceci crée naturellement un comportement de troupeau. En effet, le trading effectué aujourd'hui aux États-Unis se concentre principalement sur l'ouverture et la dernière heure du jour de bourse. Pendant le reste de la journée, les marchés présentent une illiquidité avec peu de transactions réalisées. Une deuxième explication réside en ce que les actifs à revenus fixes, de type obligations gouvernementales, d'entreprises et obligations des marchés émergents, sont pour la plupart négociés hors cote sur des marchés illiquides. Troisièmement, non seulement les revenus fixes présentent davantage d'illiquidités, mais la plupart de ces instruments, qui ont considérablement augmenté en nombre, en raison de l'émission proliférante de dettes publiques et privées, sont aujourd'hui détenus dans le cadre de fonds communs de placement dont les investisseurs sont autorisés à s'extraire du jour au lendemain. Imaginez une situation dans laquelle une banque investirait dans des actifs illiquides tout en permettant à ses déposants de récupérer leurs espèces du jour au lendemain. En cas de ruée sur ces fonds, la nécessité de vendre les actifs illiquides pourrait très rapidement faire diminuer leur prix dans le cadre de ce qui s'apparenterait à une véritable vente au rabais. Quatrièmement, antérieurement à la crise de 2008, les banques étaient teneurs de marché s'agissant des instruments à revenus fixes. Elles détenaient un important stock de ces actifs, fournissant ainsi une liquidité et atténuant les excès de volatilité des prix. Or, les nouvelles réglementations étant venues sanctionner de telles transactions, au moyen de charges de capital plus élevées, les banques et autres institutions financières ont réduit leur activité de tenue de marché. Elles ne sont plus là pour agir en tant que stabilisatrices. C'est ainsi que lorsque surviennent des situations inattendues, par exemple lorsque la Fed annonce la fin anticipée des taux d'intérêt zéro, lorsque les prix du pétrole explosent ou que la croissance de la zone euro amorce une reprise, la nouvelle notation des actions, et particulièrement des obligations, peut se révéler abrupte et dramatique, chacun se retrouvant coincé avec les mêmes transactions. Il s'agit de s'en extraire rapidement. Mais de nombreux investissements s'inscrivant dans le cadre de fonds illiquides et face à l'absence des teneurs de marché qui habituellement atténuent la volatilité, les vendeurs n'ont d'autre choix que de concéder des rabais. Cette coexistence de liquidité macro-liquidité et d'illiquidité des marchés constitue une véritable bombe à retardement. Au fil du temps, plus les banques centrales persisteront à créer de la liquidité afin d'éliminer la volatilité à court terme, et plus elles alimenteront une bulle des prix des actions, des obligations et des autres marchés d'actifs. Ceci m'inspire la réflexion que, à force de vouloir protéger ses intérêts, faire du profit à tout prix, inventer des mécaniques de régulation, on joue aux apprentis sorciers. Pour terminer, un petit retour sur les mines. Dieu sait que c'est aussi un sujet de préoccupation lié autant à la finance qu'à l'investissement, qu'à l'environnement. Et Guy Taillefer nous a fait un article qui s'appelle « Jouer à l'autruche » et qui est assez bien nommé. Vous allez le comprendre en écoutant la lecture. Nouveau rapport, nouvelles allégations d'irresponsabilité sociale ciblant une société minière canadienne à l'étranger. Le rapport de l'ONU épingle l'Érythrée, petit pays de la Corne de l'Afrique. 6 millions d'habitants sous le joug d'une dictature dangereuse comme celle qui écrase les Nord-Coréens. Comment se fait-il que la minière vancouveroise Neffson soit même autorisée à collaborer avec un régime aussi répressif? Sur 500 pages, le rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur les droits de la personne en Érythrée étale l'ampleur de la répression que fait subir à la population depuis 22 ans le régime d'Isaias Afewerki, un gangster d'obédience maoïste. Il fait état de violations des droits systématiques et à grande échelle, de tortures élevées au rang de politique d'État, d'un climat de délation généralisée, de la commission d'abus d'une portée qui rarement avait été observée ailleurs dans le monde. Le régime applique, sous la forme officielle d'un service national, un système de travail forcé, dans lequel les Érythréens, garçons et filles, sont enrôlés à partir de l'âge de 17 ans, pour des périodes indéfinies, dans l'armée ou dans les entreprises de l'État. L'Érythrée est un immense bagne, plus de 300 centres de détention, administrés par un État totalitaire qui doit sa pérennité au soutien surtout de la Chine et du Qatar. Démocrates de tous les pays, unissez-vous. Aussi, la crise des migrants qui se jettent à la Méditerranée pour rejoindre l'Europe concerne-t-elle les Érythréens au premier chef? Ils sont les plus nombreux, après les Syriens, à tenter la traversée. On estime à plus d'un million le nombre d'entre eux qui ont réussi à fuir le pays depuis 10 ans, au rythme actuel de 3 000 à 5 000 passages par mois vers le Soudan et l'Éthiopie. Interdit de séjour en Érythrée, les enquêteurs de l'ONU se sont basés sur les témoignages de plus de 500 Érythréens vivant à l'étranger. D'autres rapports avant le leur ont étalé les horreurs de cette dictature qui perpétue dans l'indifférence internationale. On ressurgit dans le document onusien des allégations de travail forcé à la mine de Bisha, propriété à 60% de la minière canadienne Neffson, des allégations qu'un rapport de Human Rights Watch datant de 2013 avait déjà bien documenté et auxquelles la direction de Neffson prétend avoir remédié, ce dont il est permis de douter. Bisha constituerait la seule mine opérationnelle du pays et sa teneur en cuivre en fait l'une des plus importantes du monde. Neffson l'exploite en joint venture avec la société publique Eritrean National Mining Corporation. Il a d'autre part été établi que la minière vancouveroise avait confié la construction d'infrastructures à une autre entreprise d'État, Segen Construction Company, un sous-traitant au sujet duquel il est allégué de longue date qu'il recourt au travail forcé, pour ne pas dire à l'esclavage. En 2012, Neffson a voulu agrandir la mine sans faire appel à Segen. Le gouvernement s'y est opposé, Neffson a reculé. En janvier dernier, soutenu par des groupes de défense, 3 réfugiés érythréens ont intenté à Vancouver une poursuite contre la minière pour travail forcé, arguant qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité. Qu'à cela ne tienne, les actionnaires sont aux anges, l'entreprise qui est en croissance a engrangé depuis le début de 2011 des revenus de 1,6 milliard. L'industrie minière, dont le Canada est le cœur financier, est un monde opaque, qui a été souvent montré du doigt pour son irresponsabilité sociale et ses complaisances politiques en Asie, en Amérique latine et ailleurs en Afrique. Le gouvernement canadien laisse faire. La compagnie Neffson peut bien détourner le regard, il demeure qu'elle n'opère pas en vase clos. Elle contribue objectivement au maintien d'une dictature particulièrement odieuse. Si vous avez un problème pour vous demander ce que le mot « honte » veut dire, eh bien relisez cet article. Quelques brèves pour terminer, un sujet un petit peu plus joyeux. Oh, quoique, je ne sais pas, celui que je viens de vous lire, mais il faut que je vous mette en garde contre les tiques. Attention aux tiques cet été. Et la maladie de Lyme, qui est provoquée par les piqûres de tiques, est en forte progression au Québec depuis 4 ans. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle traverse le fleuve Saint-Laurent pour atteindre la rive nord. Jusqu'en 2010, on recensait à peu près au Québec 8 cas d'infection chaque année. Mais depuis 2011, 71 cas en 2013, 66 en 2014. Et ça va donc augmenter de façon très très importante. Alors, des nouvelles de la société Colt, les pistolets Colt. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Probablement pas du point de vue des employés qui vont perdre leur travail, mais la société Colt est à deux doigts de la faillite. Et cette légende américaine est sur la corde raide. C'est une question de jour maintenant. Malheureusement, la société l'a déclaré à la presse. Bon, alors Colt n'est pas encore tout à fait mort. C'est quand même le minimum pour une société d'armes. Mais elle va vite se retrouver placée sous la protection de la loi sur les faillites. Protection, Colt, c'est bizarre ce mariage. Alors, on a dit beaucoup de mal sur les minières canadiennes il y a un instant. Je vais encore enfoncer le clou parce qu'il y en a une autre. Canadian Malartic qui a été condamné à payer une amende de 197 000 $, personnellement je trouve que c'est pas beaucoup, pour avoir enfreint à 27 reprises la loi sur la qualité de l'environnement. Ah oui, c'est des faits qui remontent à 2010 alors que la plus grande mine d'or à ciel ouvert au Québec était en construction. La mine s'affairait à construire un mur entre la ville de Malartic et ses opérations afin de protéger les citoyens du bruit et des poussières. Donc il fallait construire un talus temporaire, séparer la ville de la mine. Ça n'a pas été fait. Et à 25 reprises, cette société a utilisé de la machinerie non autorisée, sans parler d'opérations de décapage de la surface sans autorisation, etc. etc. Bref, les miniers se fichent complètement de l'environnement. Alors, pour continuer avec les bouleversements de l'environnement, eh bien figurez-vous que, mais sans les minières cette fois, on se passe très bien d'elles, dans l'Arctique, les dauphins s'invitent au menu des ours polaires, figurez-vous, tout ça à cause du réchauffement climatique. Des ours polaires ont été vus pour la première fois en train de dévorer des dauphins dans l'Arctique. Et d'après les scientifiques, c'est la conséquence probable du changement climatique qui, évidemment, rapproche des espèces jusqu'alors sans interaction connue. Oui, alors je sais, on aime beaucoup les dauphins, très gentils, qui nous parlent, qui savent tout faire et tout. Eh bien, il va falloir s'habituer à les voir être dévorés par les ours polaires. Alors, bon, allez, un sujet un petit peu plus léger. Est-ce que vous savez où on dort le moins bien au pays ? Ah, ça c'est intéressant. La température serait la deuxième cause la plus répandue pour expliquer les troubles du sommeil d'un bon nombre de Canadiens. C'est une nouvelle étude qui l'affirme. Et c'est très très sérieux, hein, parce qu'il paraît que 62% des Canadiens souffrent d'une forme ou d'une autre d'un trouble du sommeil. Eh bien, la douleur est la cause principale qui garde les gens qui se réveillent réveillés. Et en deuxième position, c'est la température. Bon, bah voilà. Donc, faut pas avoir mal et puis il faut pas se chauffer trop la nuit. Ah, un petit conseil pour votre santé, après toutes ces nouvelles qui ont dû vous déprimer, eh bien allez acheter des noix. Pourquoi ? Parce que manger des noix réduit le risque de mortalité prématurée. C'est pas seulement bon pour les papilles, mais figurez-vous que 10 grammes suffisent pour réduire le risque de mortalité prématurée, selon une étude très très sérieuse. Et le bénéfice est particulièrement fort dans les maladies neurodégénératives et respiratoires, ainsi que dans le diabète. Alors quand on voit à la vitesse à laquelle le diabète progresse au pays, ben écoutez, il faut absolument qu'on mette des distributeurs de noix à côté des parcs-mètres. Et je termine par cette nouvelle concernant le lobbyisme, qui est quelque chose quand même d'assez bizarre. C'est étonnant que quelque chose qui est quand même assez contestable, comme de faire de l'influence un petit peu souterraine et secrète, finalement, puisse être toléré, même avoir pignon sur rue et être considéré comme une activité tout à fait noble. Eh bien, une réforme nécessaire. Et un projet de loi maintenant arrive au Parlement et y réglera plusieurs problèmes importants. Confier le registre des lobbyistes directement au commissaire au lobbyisme pour appliquer et interpréter la loi, imposer des obligations aux titulaires de charges publiques et amener un certain équilibre face aux obligations déjà nombreuses des lobbyistes. Elles sont peut-être très nombreuses sur le papier, mais dans la réalité, elles le sont beaucoup moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à Rémi Hermoso et à la semaine prochaine.